RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct bien sûr. L'After est sur RMC, l'After est sur RMC Sport News en simultané. Nous sommes à la radio, à la télé et on vous attend bien sûr toute la soirée pour débattre avec nous au 32-16. Appelez-nous sur Direct Studio via l'appli gratuite RMC Sport et puis sur le hashtag RMC Live. Si vous êtes sur Twitter, on vous attend dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec ce soir, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Les résultats, Toulouse qui se qualifie face à Reims au tir au but, 4-4 puis 4 tirs au but à 3, Guingamp qui se qualifie après prolongation à Nancy 2-1, le club de National de la Duchère, quartier de Lyon qui se qualifie à Andrézieux, club de National 2, 2 buts à 1, Villefranche, autre club de National, Villefranche en Beaujolais qui bat les Herbiers, le finaliste de l'an dernier, les Herbiers National 2, donc éliminé, Villefranche gagne 2-0, et puis ce soir Metz, leader de Ligue 2, gagne à Monaco 3-1 et Lille gagne à 7, club de National 2, 1-0. Voilà les résultats. Je rappelle que tous les 16e de finale sont à vivre sur RMC, hein, entre aujourd'hui, demain et après-demain. Vous ne raterez absolument rien. 22h59, on va également parler de Balotelli, bien sûr, puisqu'on le sait depuis ce soir, Balotelli arrive à Marseille. Il sera sur place demain pour signer son contrat, passer la visite médicale. L'After va forcément en parler. Et puis, évidemment, la disparition d'Emiliano Sala. Les recherches ont été stoppées ce soir. Toutes les infos à suivre dans l'After. Mais vous le savez, en Coupe de France, l'essentiel, c'est pas les 3 points. Et pourtant, ils sont là quand même. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Jérôme, tes 3 points de débat ce soir.
Bah, le premier point, tu l'as dit, c'est pour Emiliano Sala. Voilà, c'est terrible, c'est horrible. Et même si on se connaissait pas directement, je suis touché, je suis très ému. Et c'est terrible pour le monde du football et pour sa famille. J'ai une grosse pensée pour sa famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir au match de soir, bah, c'est Monaco, catastrophique, encore une fois. Et mon troisième point, c'est sur ce que veut faire Thierry Henry et Passy, parce que j'y comprends plus rien. Voilà, ça fait 3 points.
Daniel, tes 3 points.
Bah, je pourrais faire un copier-coller, c'est autorisé ou pas ?
C'est autorisé.
Ah, si ce n'est qu'effectivement, je pourrais même plus faire point 1 Salah, point 2 Salah, 3 points, troisième point Salah. Mais comme il faut parler du match de ce soir, bah, le match de ce soir ne présentait à mes yeux aucun intérêt, tant j'étais persuadé que...
Tu parles de Monaco-Metz, hein ?
Que Monaco allait s'en sortir. Je sais pas, c'est peut-être bête d'avoir pensé ça, mais... Je m'étais dit que ce match de Coupe de France contre une Ligue 2 à domicile, bon voilà, ça allait être une victoire et qu'on allait attendre la suite. Et en fait, s'il s'est mis à avoir de l'intérêt, c'est parce que t'es là devant et tu constates que c'est une catastrophe absolue. C'est pas possible, ils peuvent pas creuser plus que ça, ils peuvent pas tomber encore plus bas.
C'est fini.
Il se passe rien du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est les 3 points, pardon.
Bon, je vous livre mes 3 points aussi. Alors ça là, on va en parler longuement. Moi, je voudrais quand même que dans notre after de ce soir, on dise également un mot de Gradel, qui a une fois de plus à sauver Toulouse, avec un penalty dans la prolongation, plus un tir au but gagnant. Voilà.
Bon, bah, si chacun peut mettre son petit grain de sel dans le sommaire, réserve.
C'est le principe des 3 points.
Ouais, bah réserve 2-3 minutes pour l'interview de Neymar au CFC dimanche soir, dont on n'a pas parlé et qui n'est pas dénué d'intérêt selon moi.
On va essayer de rentrer tout ça dans une heure d'after avec vous. Tiens, on va démarrer avec Cédric tout de suite. Il est supporter de Monaco. Cédric, bonsoir.
Ouais, bonsoir messieurs.
Salut Cédric.
Cédric, Monaco touche le fond ?
Ouais. Tiens, c'est exactement ce que je me disais. On a touché le fond là. Et puis je rejoins Jérôme Bretagne. Moi, je ne comprends plus rien non plus. Moi, je veux dire, tactiquement, on n'a pas de fond de jeu. Après, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il veut Thierry Henry ? Il fait rentrer Fabregas à 20 minutes de la fin. C'est quoi l'intérêt ? Imaginons qu'il se blesse en plus pour le match de Dijon. On veut gagner ou on veut pas gagner? Soit on veut gagner, on la ligne d'entrée, mais on fait pas rentrer Fabregas à 20 minutes de la fin. Moi, je trouve que c'est prendre un risque pour rien du tout. Et puis, l'état d'âme, y a pas d'état d'âme, y a pas de révolte, y a rien. Je vais peut-être être méchant, mais à la limite, Thierry Henry, moi, qui s'en aille, Thierry Henry. Et puis, Passy, il a vécu cette situation-là, il a plus d'expérience, moi.
Ah, toi, tu veux passer en numéro 1,
s'il te plaît, non.
Ouais, mais après,
ça change rien du tout. Il est là, c'est pas parce que tu vas faire une inversion 1-2 que ça changera quelque chose. Bah, si, il est là justement pour aider Thierry Henry sur ces aspects-là. Mais aujourd'hui, je sais pas, oui, peut-être qu'un, carrément, un autre entraîneur pourrait trouver, des mots, mais le choc psychologique, on l'a essayé. Et franchement, moi, il arrive un moment où dans le foot, c'est très difficile de comprendre. Et, c'est justement plus du foot. C'est de la psychologie. Et là, je vais me tourner vers Jérôme parce que Jérôme a connu des très hauts dans le foot, mais des situations complètement folles. Il en a connu aussi. Ce que j'appelle situation folle, c'est quand en fait plus rien n'est cohérent. Parce que, moi, je me fous de savoir comment Monaco a joué ce soir et la tactique, même si ça peut avoir une importance. Mais quand sur le terrain, face à une équipe de Ligue 2, t'as quand même la moitié de l'équipe qu'on va qualifier de bons joueurs. Quand même. Tu vois, quand t'as Rony Lopez, Falcao, il y a Glick, il y a Subasic, enfin Subasic, tu vois, gardien des finalistes de la Coupe du Monde, tu vois, voilà.
Bah là, il joue quand même ce soir avec un champion du monde et un finaliste de la Coupe du Monde.
Et que t'as le néant footballistique qui sort de cette équipe-là, pour moi, c'est pas... la qualité technique ou tactique, c'est vraiment que dans la tête, soit les mecs d'abord c'est un jeu collectif, donc il faut que les mecs soient un peu ensemble, parce que sinon contre une Ligue 2, mais ça se trouve contre une nationale, ils auraient pu perdre ce soir aussi, hein, quand on arrive à ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces mecs-là, et de quelle façon tu peux agir sur ce mal maintenant, parce que pour moi c'est même plus un mal qui est de l'ordre du foot quasiment, en fait, quoi.
Attends, Jérôme répond et Cédric après tu reprends la parole.
En fait, ce qui est terrible, et t'as raison de le dire, c'est que des fois t'arrives dans des situations, t'as beau avoir un CV et d'avoir des joueurs de qualité, parce que quand tu les prends aujourd'hui, l'équipe qui est alignée sur le papier, elle a de la gueule au départ, au niveau individuel. Après, la chose qui peut se passer, en effet, t'as raison, c'est même plus tactique, c'est même pas technique, c'est psychologique. Psychologique, comment t'entames les matchs. Moi, j'ai connu cette période à Paris, par exemple.
Bien sûr, en 2008.
À Paris, où on s'est vu dégringoler.
Avec un paradoxe de... En plus, je rajoute au paradoxe de dingue à l'époque, et tu vas témoigner là, c'est que en championnat, c'était dément des fois ce qui pouvait se passer au niveau des boulettes, de la nullité globale. Mais vous faites les deux finales de Coupe de France et vous en gagnez une. Et l'autre, perdu contre Lyon, même, vous la dominez.
On doit la gagner.
Donc ça, c'est absolument incompréhensible.
C'est incompréhensible parce que après, t'as le facteur, et on le disait, réussite qui te fuit. En général, pour toutes les équipes, que ça soit Monaco, Paris ou des équipes plus faibles,
les blessures,
c'est vrai que tu prends des buts. Monaco prend des buts
venus d'ailleurs.
Top buts. Franchement, encore les deux buts de soir de Metz. Je parle pas du troisième, mais les deux premiers sont magnifiques.
Oui, t'as l'impression les mecs, en plus, ils ont les mecs qui ferment les yeux, ils frappent, ça rentre.
Exactement.
Ouais, c'était pareil ce week-end pour Strasbourg.
Quand tu prends un but, tout le monde baisse la tête, et c'est là, en fait, que tu dois avoir des matchs déclics, des matchs charnières, qu'on parlait des matchs références. La dernière fois, tu me posais la question. Même à travers des matchs nuls ou des, il doit se passer des choses, et la communication entre les joueurs et surtout entre le staff technique et l'entraîneur, donc Thierry Henry et maintenant Passy, ça doit être fusionnel avec ces joueurs. Et là où je mets un bémol et où je suis inquiet, c'est que t'as l'impression ils sont pas du tout en adéquation avec ce que veut mettre en place Thierry Henry et Passy, qu'ils abordent les matchs, parce que le match il est incroyable, comme tu le dis, la première mi-temps de Monaco, elle ressemble à quelque chose. On le disait, il y avait
un bonnes choses à la mi-temps.
Ils reviennent au score, c'est logique. Mais la deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'a pu dire Thierry Henry ou Passy, mais en aucun cas, c'est le Monaco qu'on a vu en deuxième mi-temps, qui arrive, qui subit tout, ils font plus d'efforts ensemble et ceci. Donc là, c'est encore plus inquiétant parce que t'as le facteur psychologique qui normalement va pour toi. Tu reviens au score en faisant une bonne première mi-temps. Et d'un coup, En deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. Donc, les mecs ne font plus assez d'efforts ensemble. Et dans ce club à Monaco, qui est un club à part par rapport à ça, parce que la pression, on le dit souvent, là, aujourd'hui, il y avait 500 personnes dans le stade. Ils vont sortir, ils ont perdu, ils vont sortir, ils vont aller manger tranquillement. Personne va leur dire quoi que ce soit. Ça change de tous les autres clubs, tous, hein. Je peux même te mettre les plus petits où t'as une pression populaire, là-bas t'es tranquille. Eh ben, je suis désolé, mais s'ils arrivent pas ensemble à se prendre main dans la main, à se dire maintenant, il y a une mission, il faut faire les efforts ensemble, les gars, parce que si on fait plus d'efforts ensemble.
Oui, mais ça, j'imagine que ça été dit déjà la semaine dernière,
mais ça marche pas.
La semaine d'avant.
Ça marche pas.
Donc ça veut dire il faut que quelqu'un d'autre parle. Exactement. Comment ça peut se passer?
Moi, je pense
qui va parler.
C'est pour ça qu'il voulait injecter du sang neuf. Mais il a fait des recrues, un recrutement dans ce sens-là. Mais est-ce qu'un Fabregas est capable de faire ça? Moi, j'en suis pas certain. Par rapport au tempérament, à prendre les choses à cœur,
aller le leader dans le vestiaire,
aller expliquer des choses à des joueurs qui ont de l'expérience mais qui sont en grande difficulté. Lui, il a pas connu les premiers mois avec l'AS Monaco, alors a connu d'autres difficultés parce qu'il
jouait pas. Oui, mais peut pas se désintéresser du truc. Il va quand même se donner à fond, tout comme Ronny Lopez et tout.
Ouais,
les mecs qui vont se dire quoi? Oui, ok, si on descend en Ligue 2, on pourra trouver un point de chute ailleurs. Mais enfin, ça va quand bien même, les mettre un peu dans la merde.
Écoute,
quoi.
Écoute, et après, pour finir, par rapport à mon expérience, t'as un chef de bord. Le chef de bord, c'est l'entraîneur et c'est l'entraîneur adjoint. C'est les deux. Et allez, je pourrais même te mettre le préparateur physique parce qu'il a un rôle aujourd'hui essentiel dans le football. Si ces trois mecs-là, ils ont pas la main mise sur le groupe, ils arrivent pas à faire passer les messages et à ce que tu vois des choses pendant les matchs, mais t'es mort. Tout Thierry Henry qu'il est, et pourtant c'est mon pote, aujourd'hui, son message, son discours, ce qu'il veut mettre en place, ça ne passe pas. Pas si on a l'impression que ça allait le décharger de certaines choses à l'arrivée, ça fait effet inverse, c'est que il se perd dans sa communication, où il commence à nous sortir des conférences de presse comme le match de Strasbourg qui était hallucinante, et aujourd'hui, c'est effet inverse, il reste assis sur le banc, il dégage rien. Mais cette équipe, elle a besoin d'être aidée. Donc c'est pour ça que moi je pense que Thierry aujourd'hui, moi il faut pas tirer des plans sur la comète trop tôt, mais Thierry est de moins en moins l'homme de la situation. Alors c'est difficile pour de dire ça aujourd'hui parce que Thierry commence son métier d'entraîneur, mais franchement si tu prends une claque contre Strasbourg, il met son équipe type ce soir et t'en reprends 3 contre
Metz. Match chez eux.
Écoute,
ça n'a pas de sens. En plus, il joue à 3 derrière, quasi à 5.
Exactement.
Sur le terrain, tu vois les joueurs. Ok, Jamerson, on est d'accord. Il met plus un pied devant l'autre. Ça, d'accord.
Non plus.
Bon, mais
Glick, quand même... sur le but là.
Glick, Balotouré, Golovin, Tielemans, Ronny Lopez, Falcao, Djibril Sidibé. Ça te laisse sans voix. Quoi.
Cédric.
Ouais, mais après vous dites qu'il joue à 5 derrière. Mais tactiquement, l'entraîneur qui est en face. C'est pas complet, c'est pas sorcier non plus. Sidibé, il arrête pas de monter. Avec Henrich, ils se sont marchés dessus. Vous regardez les deux buts qu'on prend, et ça vient du côté à Sidibé. Avant d'attaquer, moi, un défenseur, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, je veux bien, mais au moins qu'il revienne aussi vite qu'il attaque. Parce que les buts qu'on prend, alors oui, ils viennent un peu d'ailleurs, mais les mecs, ils ont eu le temps de se faire 3 passes
exactement.
À 5-6 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Et il n'y a pas de cohésion, en fait, c'est ça. Honnêtement, s'ils cherchent des solutions, et en toute modestie, moi j'ai 45 ans, je joue au foot depuis belle lurette, j'étais au match à Caen Monaco, et je peux vous assurer, j'étais juste derrière le banc de Monaco, et je les ai encouragés les gars, et je regardais quand je gueulais au bout d'un moment, je disais à Aïd Benacer, à Youssef, je gueulais fort, je disais allez les gars, lâchez pas, et je voyais qu'ils me regardaient, et je trouve que c'est ce qui manquait sur la touche, voilà, je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais et ça Thierry Henry, ce que vous disiez tout à l'heure, là il était amorphe, alors ok, Coupe de France, maintenant Dijon, si on perd ce match-là, et je pense pas me tromper, et ben le maintien, ça va être chaud bouillant,
c'est sûr, mais de toute façon...
Donc ça, c'est un match à 6 points. Donc, Thierry Henry, je kiffe. L'envie qu'il avait sur les terrains quand il débordait, qu'il mette sur la touche, qu'il gueule, qu'il nous fasse un coup de Roland Courbis, de ses entraîneurs qui gueulent, comme l'entraîneur de Strasbourg, Loré, de temps en temps.
Roland, c'est pas un gueulard sur un banc.
Ouais, mais il sait faire... quand il pousse une gueulante sur le banc de touche, les mecs, ils savent ce qu'il faut faire. Et ben, c'est peut-être de ça qu'il a besoin. Fabregas, il peut tenir l'équipe. Et celui qui manquait aussi aujourd'hui, je ne sais pas s'il va être suspendu aussi contre Dijon.
Golovin s'est blessé par ailleurs.
Golovin,
il est tout le temps blessé.
Donc Golovin,
est-ce
déjà,
que Nadou est suspendu ou pas samedi?
Oui, il est suspendu.
Parce qu'il a pris l'automatique aujourd'hui, mais est-ce qu'il est suspendu? Elle est hyper importante.
En fait, la commission, elle passe demain.
La commission, c'est demain, donc on saura demain.
Mais c'est un effet que après, normalement le lundi.
Non, parce que t'as l'automatique. S'il a pris qu'un match automatique, il ne sera pas suspendu ce week-end.
Non, ce serait trop beau ça.
Voilà, mais après, si on est là. Non, mais bien sûr qu'on en est là. Mais moi, le mal. Après, on peut parler tactique, technique, tout ça. Le mal, il est dégagé. Ben oui, mais il est dégagé une âme dans cette équipe et il n'y a pas d'âme. Et tu le disais, les buts de Metz sont fabuleux. La frappe, là, on l'a revu. Le deuxième but, il est magnifique. Mais il y a une attitude à avoir. T'as Golovin qui perd un premier duel. Tielemans qui sort pas. Il sort sans sortir. Et Tielemans, c'est pas la première fois qu'on le dit. Mais au bout d'un moment, il faut peut-être se retirer les doigts d'où je pense. Et puis voilà. Et Et y a un rôle à avoir. Les défenseurs, ils doivent être plus agressifs qu'ils le sont. Tu peux faire des erreurs, mais quand je vois le troisième but et que je vois que Glick, à l'entrée de sa surface de réparation, il s'aligne, presque il joue le hors-jeu, alors que t'as un mec qui est dans son dos et t'as Badiachil qui couvre 3 mètres derrière, il prend même pas l'information. Je me dis que là, ce genre d'erreur, ça montre quand même que l'état d'esprit n'est pas...
Ah bah ouais. T'as l'impression qu'ils sont plus joués, ils se bloquent dans la tête. Ah non, comme c'est... dans un match de tennis, quand t'as le petit bras, t'arrives même plus à passer la balle de l'autre côté.
Mais c'est ça. C'est que, et en plus, ils ont pour eux que Falcao, depuis deux matchs, il a retrouvé le chemin des filets. Donc tu te dis que Falcao, avec le peu de confiance qu'il a, il arrive à marquer un but sur une demi-occasion. Bah peut-être que les autres vont se mettre dans la combinaison des soldats, des bons soldats. Mais franchement, j'ai très peur.
Ouais. Merci Cédric.
Merci à vous, messieurs. Et puis, donnez mes coordonnées à Thierry Henry. S'ils veulent quelqu'un pour motiver les joueurs, je serai prêt.
Salut, Cédric.
Allez, bonne soirée.
À bientôt. Bah oui, les supporters monégasques sont prêts à tout faire pour sauver leur club.
Ah, bah là, oui. Là, ouais.
Juste spécifiquement sur Thierry Henry. Jérôme, tu dis qu'il commence à être en danger. Ce serait quand même à camoufler. À la fois pour le club, à la fois pour Thierry Henry, s'il finissait pas la saison. Hein.
En fait, il y a deux. Thierry, il est arrivé et je l'ai dit déjà, mais c'est pas une critique envers lui. Il est comme ça, il est sûr de lui, il connaît très bien le football mieux que quiconque. Mais ça suffit pas quand t'es comme ça au devant de la scène avec une telle équipe. Je pense que lui, il s'est dit en venant à Monaco, rien que ma présence, ça va arranger pas mal de choses. Et il va en effet avoir ce fameux choc psychologique où on a l'impression qu'avec Jardim, c'était la fin de 3, 4, 5 années exceptionnelles. Ça a pas eu lieu, ça. Il n'y a pas eu ça. Les joueurs, ils l'ont regardé avec des yeux qui brillaient, avec plein d'étoiles dans leurs yeux. Mais au bout de quelques matchs, c'est passé, ça. Il te regarde comme un entraîneur. Et le joueur pour qu'il aille dans le même sens que l'entraîneur, il veut que quand il est sur le terrain, que Thierry Henry, tout ce qu'il veut mettre en place, tout ce qu'il cherche à mettre en place, ça porte ses fruits. Aujourd'hui, ça porte pas ses fruits. Ils font que perdre. Ils ont même pas gagné un match à domicile, sauf contre Lorient.
Et un
Lorient bis. Donc, ça veut dire
que c'était un Metz bis, hein, ce soir.
Non, mais en par plus, ailleurs. Ouais, du moins, il y avait 3-4 joueurs qui tournaient. Donc, rien que ça, déjà, il a perdu ce crédit, Thierry Henry, champion du monde, grand joueur, un des meilleurs joueurs du monde et tout ça, il a perdu ce crédit-là. Aujourd'hui, il le juge comme un entraîneur. Un entraîneur tout seul, il a pas réussi. Il prend Passy. Eh ben, pour l'instant, c'est un échec. Donc il y a rien eu, il y a pas eu encore une fois ce fameux choc psychologique. Et aujourd'hui il est en difficulté parce que les joueurs comme nous. Alors moi j'ai le bon rôle aujourd'hui, je regarde les matchs, je me dis mais pourquoi il a fait ça et pourquoi il fait ça. C'est sûr que c'est plus facile après coup de dire bah il aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça. Mais je suis désolé quand tu t'embourbes dans tactiquement ce que tu veux mettre en place avec ce 3 derrière ou ce 5 derrière, avec un rôle qui, je suis désolé, avec toute l'expérience que j'ai aussi, quand tu joues à 3 derrière, c'est que tes animateurs de côté, tes joueurs de couloir sont très importants. J'ai jamais vu ça sur les matchs de Monaco. Jamais.
Sur Thierry Henry, Daniel ?
On en a parlé mille fois de la difficulté pour un joueur comme il a été de se retrouver dans ce genre de situation, de savoir s'il a les mots, de démarrer une expérience dans une situation aussi compliquée. Franchement, je ne sais plus quoi dire sur le sujet. Vraiment, quand une situation devient à ce point-là incohérente, incompréhensible, je crois que même les dirigeants ne doivent pas savoir si le remplacer est une solution. Je sais même pas si Henry sait comment s'y prendre, parce que je connais pas ses connaissances en psychologie, parce que là, pour moi, c'est ça surtout, c'est du travail mental. Je ne sais pas si là-dessus il a bossé, s'il a assez d'expérience. Autant t'as des mecs qui ont beaucoup bossé là-dessus. Ce qu'on appelle les entraîneurs intellectuels du foot, les Mourinho, tous ces mecs-là, justement, qui pour la plupart n'ont pas été anciens joueurs, qu'on a pris plutôt dans les bouquins. Même Jardim avait ça. Jardim a beaucoup parlé de ça. C'est l'université portugaise, là, pour bosser sur ces aspects-là. Lui, je crois pas qu'il ait ça. Maintenant, Passy, sans l'avoir travaillé dans les bouquins, il l'a au moins eu sur le terrain, son expérience de bosser dans les situations difficiles. Est-ce que ça suffira, là ça pue, c'est la situation, elle pue vraiment, quoi. Vraiment pour Monaco, vraiment.
Dans quelques instants, on est de retour pour parler du LOSC qui a galéré à 7 mais qui l'a emporté 1-0. Pierre sera avec nous au 32-16. Je rappelle que Metz donc se qualifie à Monaco 3-1. Qualification par ailleurs de Villefranche-en-Beaujolais, de la Duchère de Guingamp, de Toulouse. On veut également parler de Gradel un peu plus tard, de Balotelli qui arrive à Marseille. Évidemment, l'after est là jusqu'à minuit avec toute l'actu foot du jour. Moi également tout à l'heure sur la disparition d'Emiliano Sala. Ce soir, les recherches dans la Manche ont été interrompues par la police anglaise qui se dit très pessimiste. On en reparle d'ici minuit dans l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec Jérôme Rotel, avec Daniel Rieu. Avant de parler de Lille, un mot de l'after Academy, puisque vous avez été, Nicolas Villas l'a expliqué hier, près de 1600 à envoyer les vidéos. Donc on devait recevoir nos 7 finalistes à partir de lundi prochain, mais il y a tellement de vidéos qu'on va quand même prendre le temps de toutes les regarder correctement. Donc on repousse d'une semaine l'accueil de nos finalistes, comme cela a été expliqué hier, mais je voulais quand même le rappeler ce soir, afin de prendre le temps de sélectionner sereinement nos 7 finalistes. Hein. Donc voilà, en tout cas, on est ravis du succès de cette opération, puisqu'on ne s'attendait pas à recevoir autant de candidatures. La preuve que vous êtes très nombreux à vouloir intégrer la bande de l'after, je ne sais pas, c'est peut-être le contact de Jérôme, de Daniel qui vous excite, quoi. Je peux comprendre.
C'est normal, hein.
Ah, c'est normal, bon d'accord. Alors, Lille, les gars, parlons-en un mot avec Pierre, parce que Lille a galéré à 7 ce soir. Salut Pierre.
Bonsoir.
Toi, la Coupe de France, t'as envie de la gagner?
Comme en 2011, oui. Après, on sait que l'objectif de championnat reste super important parce qu'on a une deuxième place à défendre et même un podium à aller chercher parce que ça reste très probable compte tenu de la qualité du championnat cette année. Si on arrive à passer des tours en faisant tourner l'effectif comme ça...
Bah, ça n'a pas trop tourné ce soir, hein, je trouve. Hein.
Oh, il y a quand même Loïc Rémy qui était en pointe.
Ouais, il n'y avait pas Pépé, il n'y avait pas Mendes.
La défense était un petit peu remaniée. Cette défense qui me fait un petit peu peur parce que je me dis que si un jour on a un blessé, par exemple Fonte ou Soumaro en défense, ça peut faire très mal parce que Egarié n'était pas du tout au niveau par exemple. Et il y a eu quand même pas mal de petits points négatifs sur ce match. Après à voir si on aura la possibilité de continuer, ça dépendra contre qui on tombe en quart. Mais ça peut être un objectif de fin de saison, pourquoi pas.
Bon, sur le match, un truc à rajouter, t'as quand même un peu tremblé parce que 7, mine de rien, a eu les écasses pour revenir. Hein.
C'était compliqué, ouais, surtout que Jonathan Mondba marque un but un petit peu contre le cours du jeu parce qu'il a pas fait non plus un bon match. Et ils ont eu du mérite. Après, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est une qualification, c'est ce qui est le plus important. Il y a quand même un match très important contre Marseille ce week-end à aller chercher. Donc c'est plus moi ce qui m'inquiète, c'est plus le championnat. C'est vrai que cette coupe, elle est belle et il y a du mérite de la gagner. Mais ça serait quand même mieux qu'on se focalise sur le championnat cette année, au moins pour avoir s'assurer une place en Champions League. Même si Daniel n'est pas trop d'accord avec le fait qu'on soit en Coupe d'Europe l'année prochaine.
C'est pas exactement... Non, c'est vraiment exactement comme ça que tu l'as compris?
Non, enfin, je sais, ce que tu as peur et ce que tu redoutes, c'est que Gérard Lopez, je pense, en fin de saison, va vouloir un petit peu s'en mettre un peu plein les fouilles, entre guillemets, et qu'on risque de perdre une grande partie de l'effectif, notamment des joueurs qui ont très bien fonctionné, comme Nicolas Pépé. Et comme toi, j'ai peur qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes que Monaco.
Mais donc tu vois bien, et je t'entends, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'intelligent. Tu ne peux pas présenter les choses comme tu l'as fait et dire ce que j'ai dit que Lille, je ne voulais pas qu'ils aillent en Coupe d'Europe. C'est pas exactement la même chose quand même.
Non, ce que tu avais parlé. Tu préférais.
C'est à l'intérieur des mots du football français qu'on ait ce genre de surprise, ce genre de qualification inattendue dans un projet pouvait parfois faire plus de mal que de bien. Au-delà du plaisir que ça peut procurer aux supporters de voir leur équipe affronter des belles équipes et du fait surtout que ce soit mérité parce que si t'y vas, c'est que t'as fait un très bon championnat. Ça c'était mis à part. Après, souvent, c'est les lendemains qui déchantent. Tu vois, c'est que je disais, c'est le mec qui a réussi à entrer dans la boîte de nuit où il a jamais pu rentrer et puis pour faire le beau, il va au bar
et il veut
champagniser la salle, quoi.
Termine
à poil.
Non, mais Lille et c'est pour ça qu'il y a pas de choix.
Paris, Lille et Lyon.
Il y a pas de choix à faire sur.
Ça bougera pas, tu dis.
Non, mais Lille, il va falloir qu'il gagne encore des matchs. il faut là regarde, ils vont à Marseille, imagine ça se passe mal, je leur souhaite pas, mais à Marseille ça se passe mal, et ben d'un seul coup t'as l'impression que tout est un petit peu relancé. Donc non, la route elle est encore longue, mais Lille ça passera aussi par ce parcours en coupe, parce que la coupe ça permet déjà à Galtier de faire tourner un petit peu son effectif, de donner du temps de jeu à certains qui jouent pratiquement pas en championnat, et pour l'ambiance dans le groupe. Et Lille en aura besoin d'avoir cette ambiance de 20-23 joueurs ensemble, soudés pour aller chercher un objectif très élevé. Parce que si ce qu'il y avait fait en Ligue des Champions, c'est qu'en effet, et avec Daniel, on se rejoint, et même avec Pierre. Avec Pierre ou tous les supporters de Lille, c'est que Lille l'aura mérité. Et que tant pis pour les grosses équipes, soi-disant de nos championnats, qui doivent rivaliser avec les meilleurs. Mais c'est que il faut appeler un chat quand tu regardes l'équipe de Lille, moi avec tout le respect que j'ai, mais tu mets cette équipe, ne serait, et encore elle perdra des joueurs l'année prochaine, on parlait de Pépé, on peut en parler d'autres qui ont brillé, certainement qui partiront parce que c'est l'objectif de Lopez de se faire un petit peu d'argent. Cette équipe elle fait flipper pour nous représenter en Ligue des Champions. Il faut appeler un chat, dire avec cette équipe tu fais quoi, tu fais comme Monaco cette année. Et encore, Monaco, on avait moins de doutes, et à l'arrivée, ils sont passés complètement à la ramasse.
Merci Pierre, en tout cas, pour finir sur la soirée de Coupe de France, avant de parler de Balotelli, juste un mot de Gradel quand même, parce que Toulouse, ce qu'a fait Toulouse avec Gradel, c'est quand même le coup de mercato le plus magnifique.
Qu'ils l'ont acheté.
Ils l'ont acheté pour rien. Enfin, ce type, il peut jouer. Alors, vous allez me dire, demain, aujourd'hui, je pense que si tu le mets à Marseille, il est titulaire indiscutable. Tu le mets à Lyon, je pense qu'il joue aussi. Il jouerait partout, Gradel.
Gradel, c'est
incroyable.
Gradel, c'est un
2 millions, hein.
C'est un bon.
Ils ont acheté Gradel 2 millions à Toulouse.
En fait, Gradel, dans la tactique de Casanova, alors pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il a des bons joueurs à côté. Quant à le petit Garcia, là, au milieu de terrain. C'est un joueur de ballon. Alors c'est sûr que si tu lui demandes de faire, c'est ce que je te disais pendant le match tout à l'heure. Si tu demandes à Garcia de courir après le ballon, d'aller tacler comme Cahuzac peut le faire, c'est sûr que c'est pas son style de jeu. Si tu demandes à Garcia de jouer dans une équipe qui recroquevillée dans ses 20 mètres, c'est pas son style de jeu. Et dans ces cas-là, tu t'en remets à des exploits individuels. Souvent c'est Gradel parce que c'est le seul. Peut-être un des seuls joueurs joueur de classe, parce que quand il a le ballon dans les pieds, il sait ce qu'il fait, il sait dribbler, il sait faire des passes. On a vu la relation avec Garcia quand ils sont plus hauts sur le terrain, et c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir Toulouse de plus en plus dans cette stratégie-là. Après, est-ce que Casanova va accepter ça parce que il y a toujours l'objectif. Attention, on a peur de jouer le maintien jusqu'au bout et on veut se rassurer en allant prendre des points, même en faisant les mecs comme ils ont fait à Nîmes où ils sont franchement par moment à 10 dans leur surface de réparation. Bah écoute, franchement, si on voit un Toulouse comme ça jusqu'à la fin de saison, on a les supporters du Stadium, ils ont raison de gueuler. Aujourd'hui, ils ont vu une équipe qui avait envie de jouer. J'espère le revoir.
Gradel, tu veux dire un mot, Daniel ?
Moi, j'aime beaucoup ce joueur, évidemment. C'est difficile de pas l'aimer. Il est technique et tout. Le seul truc par rapport à lui, je répète, bon joueur, un mec intelligent, sympa et tout, c'est il n'était pas tout le temps régulier quand il était à Saint-Etienne. Il s'est barré. Ça a pas marché.
Ouais,
c'est vrai qu'il avait choisi un club un peu bizarre. Il était parti. Ça arrangeait tout le monde qu'il aille là-bas. Il revient. Il va à Toulouse. Alors, soit c'est possible. C'est un joueur qui peut jouer dans une petite équipe. Mais j'aimerais bien savoir s'il peut vraiment, comme tu dis, être titulaire demain à Marseille, à Lyon, tout ça. J'aimerais bien le savoir.
Bon, il a 31 ans.
J'en sais rien. D'abord, c'est vrai qu'il est plutôt jeune, mais j'aimerais bien en être convaincu parce que attention à l'exigence dans certains clubs, c'est pas la même. Parce que à Marseille aujourd'hui, la situation, elle est pas bonne. Il y a énormément de très bons joueurs dans cette équipe. Exactement. On parle pas de Monaco, dont on a parlé tout à l'heure, et même Lyon. Bertrand Traoré, c'est un très bon joueur, sauf qu'il en touche pas une en ce moment et il livre des prestations qui sont insupportables. Memphis, c'est un joueur top classe et il est bon un coup sur deux. Donc c'est toujours délicat à voir. Mais là, quand je le vois à Toulouse, Gradel, je te dis, j'adore quand ça lui arrive souvent de venir dans l'after. C'est un type extraordinaire. Parler foot avec lui, c'est génial, tout ça. Très bon joueur et tout. Et j'aimerais en avoir le cœur net, moi, qui puisse être fort dans un gros club et ailleurs. Et peut-être que c'est pas non plus son destin. Et peut-être que c'est
oui,
pas.
Non, mais
et qu'il s'éclate comme ça. Et tant mieux. C'est bien.
Après, hein. Il a eu un. Après, t'es rattrapé par tes choix de carrière. C'est-à-dire, t'es à Saint-Etienne, en effet, il était un petit peu régulier, mais il faisait des bons matchs quand même, et c'est pour ça qu'il est parti en Angleterre. Mais quand tu pars en Angleterre à Bournemouth, franchement, est-ce que c'est mieux d'aller à Bournemouth? Alors financièrement, oui, sans aucun doute.
Ah, c'était surtout ça qui avait motivé, Saint-Etienne, ça les arrangeait.
Ou d'aller dans un club un petit peu avec des ambitions plus élevées en France. Donc là, t'arrives dans la catégorie des clubs comme Marseille, comme Monaco, comme Lyon, où ces clubs-là peuvent te permettre déjà de jouer la Ligue des Champions, qui est la plus belle des compétitions, de rivaliser avec les meilleurs joueurs, et surtout avec les meilleures équipes, mais aussi dans l'exigence, comme disait Daniel, de ces clubs-là. Et cette exigence-là, en effet, il y a deux paliers entre ces clubs-là, Toulouse, Saint-Etienne et tout, même si Saint-Etienne est quand même mieux que Toulouse actuellement. Quand tu passes médiatiquement, la pression des supporters, la pression du club, ce qu'on attend, le poids de ton transfert, le poids de ton salaire, tout ça, on te le rappelle au quotidien et il faut gérer tout ça. Et c'est pas facile. Mais après, j'en suis en valeur intrinsèque, je suis persuadé qu'il est capable, il aurait été capable de s'imposer dans ces clubs-là. Mais c'est trop tard, 31 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Marseille va prendre un joueur qui va avoir 32 ans bientôt?
Allez, on enchaîne les gars avec Balotelli. C'est une des grosses infos du jour. Balotelli à Marseille, donc accord pour un contrat de 6 mois. Alors je vous donne les infos, vous retrouvez tout sur rmcsport.fr. Donc demain matin, il sera à Marseille pour signer son contrat, passer sa visite médicale. Donc faut quand même encore passer la visite médicale. Ça peut arriver. On a déjà vu ça dans les soirs du foot, des mecs recalés à la visite médicale.
Voilà. À part s'il casse la balance. Mais il paraît qu'il est fit. C'est une plaisanterie parce qu'il est pas. Il paraît qu'il est affûté.
Derrière présentation, et il pourrait jouer dès vendredi parce que bon, il faut 48 heures hein, pour valider un contrat à la Ligue. Donc là, bon, on est mardi soir. D'ici vendredi, c'est largement jouable. Voilà. Donc, est-ce le grand attaquant tant espéré? C'est quand même un truc étonnant. C'est-à-dire que Balotelli, il a mis plus de temps à négocier sa venue à Marseille que le temps du contrat. C'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'on en parle et c'est pour jouer 4 mois quoi, en fait. C'est assez étonnant. Ouais. Et finalement, pour une quinzaine de matchs, parce qu'il n'y a plus que le championnat.
Mais ben pas une quinzaine, en fait. Il y en a 17 à jouer, c'est ça?
Il y en aura 17.
Ouais, ils en ont un de retard.
Ouais. Une quinzaine. 17, une quinzaine.
Ah bah non. Une quinzaine, c'est 15.
Bah non. Une quinzaine, c'est autour de 15. Ça peut être 13 ou 17. Tu vois,
je pense qu'il y en a 18.
Je suis pas tellement d'accord. Non, je suis pas d'accord avec ça. Donc genre, quand t'achètes, quand tu vas quand à l'époque on allait chez l'épicier, une douzaine d'œufs, ils t'enfilaient 13 et t'étais content.
Bah c'est.
Mais si t'enfilais 11, tu faisais pas la gueule.
Non mais si tu veux 12 œufs, je veux 12 œufs. Une douzaine, c'est approximatif.
Donc j'ai bien raison. Il en reste 18.
Bon. Donc pas une quinzaine, encore moins une quinzaine.
Encore moins une quinzaine.
Donc une vingtaine.
C'est une petite vingtaine.
Une petite vingtaine, voilà.
Voilà. Non mais après pour
un problème avec l'approximation de cette expression.
Non, mais,
bien sûr, ils le veulent, ils le voulaient. Alors même si ils nous ont dit que non, ils cherchaient pas d'attaquant en début de saison. Bien sûr qu'ils voulaient un attaquant, ils le voulaient lui. Ça s'est pas fait. Bon, peu importe. Aujourd'hui, ils ont enfin un recrutement. Donc on va pas les descendre, sachant qu'ils essayent de faire changer les choses. Donc ils prennent Balotelli. C'est vrai que sur 6 mois. Donc c'est une prise de risque quand même, parce que par rapport à ton effectif, par rapport à son état de forme, moi je suis sceptique juste là-dessus. Pas la qualité du joueur, la mentalité du joueur. Bien sûr qu'il a envie, en signant à Marseille, de tout casser, de marquer des buts, de faire rêver les supporters, de d'aider l'équipe à changer d'état d'esprit. Peut-être qu'il est capable de le faire et je le souhaite pour Balotelli. Maintenant, quand tu vois les premiers mois, toute son affaire là en été, son hygiène de vie qui était pas nickel, il l'a payé là sur les 4 mois avec Nice, 0 but. Pourtant, il a joué. Hein. Mmh. Et Vieira lui a fait confiance dans une équipe à Nice où on peut dire ce qu'on veut. Peut-être qu'il manque par moment de talent et tout ça, mais Patrick, il essaye de bien les faire jouer. Et je pense que pour les attaquants, c'est souvent un régal. Il a tenté, beaucoup tenté, 0 but. Donc rien que là-dessus, je pense qu'il y a une période d'adaptation ce qui vaut pour tous les joueurs, même les plus grands, encore plus quand tu arrives dans cette dans ce club à Marseille. Et puis après son état de forme, tu vas pas revenir comme ça sur un ou deux matchs. Dire, il lui faut au moins tout le mois de février pour revenir déjà au top de sa forme, parce que même si Daniel disait qu'il était affûté, s'entraîner tout seul, connaissant un petit peu le Zozo là, même s'il s'est fait un petit peu mal, je pense que il est pas affûté comme un joueur.
Alors,
qui
juste,
s'entraîne tous les jours.
Élément financier, il aura pas le plus gros salaire du club, c'est un contrat à 3 millions. Donc 3 millions là sur la fin de saison. Alors certains ont fait des calculs, ça fait 166 000 euros le match.
Putain quand même.
Vu qu'il en reste 18.
Ouais, exactement.
Voilà.
Bah, sinon quand même très important, une douzaine c'est 12 d'un même de même élément, donc c'est quand même 12. Une douzaine de jours, c'est 12 jours. Une douzaine d'eux, c'est 12. Ah
bah bien sûr.
Voilà.
D'accord.
C'est pas 13 ou 14. Ça, c'est dans le langage populaire familier.
Eh ben oui,
c'est
comme ça. J'employais ça dans le langage populaire familier.
C'est pas exactement
ça. Ah, une émission populaire.
Oui, non, mais certes, certes, certes. Mais c'est pas exactement comme ça que.
Bon, bref.
Voilà. Non, mais c'était important quand même.
Tu
m'avais mis un doute.
Qu'est-ce que t'en penses?
Écoute.
Avant qu'on accueille Damien, vas-y.
Pour moi, alors, l'aspect financier que tu viens d'évoquer, chacun jugera de l'argent qu'on peut mettre pour 4 mois sur un joueur. Le fait que ce soit un contrat courte durée qui ressemble en gros à je sais pas au contrat que tu pourras donner à un mercenaire dans les 7 mercenaires ou les 12 salopards comme tu veux en mission et pour moi ça ne présente aucun risque. Pour moi il y a pas de risque, ça ne peut être que du bonus. Soit le mec, sur ta quinzaine de matchs, qui sont en fait 18, il te claque 10 buts, et je pense qu'il t'aura rendu service pour remonter au classement. Soit bah, ça colle pas parce qu'il met trop longtemps à se remettre en forme, comme dit Jérôme, parce que, je sais pas moi, il s'adapte pas au jeu. Mais enfin, en même temps, comme il n'y a pas vraiment de fond de jeu à l'OM en ce moment, je pense qu'il va s'adapter. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux que ça se présente comme problème? Ça peut pas être pire que maintenant. Donc en fait, la façon qu'ont eu de ficeler l'affaire les dirigeants marseillais, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Le fait de 6 mois. Tu me dirais, il signe pour 10 millions, pour un an et demi ou machin. Et j'ai dit, oh là là, avec lui, on sait jamais, machin. Mais là, le fait que ce soit
oui,
pour 6 mois, ce mec est tellement tordu dans la tête, avec des réactions souvent binaires, quasi enfantines.
Après,
le mec, il est capable
fada
de
chez les fadas, est-ce que ça peut
ouais,
ça peut
mais le mec, il est capable. Non, mais attends, c'est ça, c'est autre chose. C'est... Parce que c'est ton visage qui reste plus. Fada
non,
chez les
non,
fadas.
Moi, j'envisage un truc, parce que il y a un truc dans le public à Marseille, et d'ailleurs, on va voir si Damien est d'accord. Mais, ce mec, en fait, il correspond à ce que les gens attendent à Marseille.
Oui, non mais là, toi, tu vas plus loin.
Oui,
bah, toi, tu restes pas sur les 4 mois.
Ça compte aussi dans le choix que tu
moi,
fais.
Moi, je te dis que
pour dans la dynamique que ce mec
oui,
peut
mais,
créer.
Moi, je pense. Si mais pour les 4 mois, pour les 4 mois.
Je pense que tu te trompes. Toi, tu parles de ce qui dégage sur le terrain. Moi, ce que
pour l'instant, il dégage rien quand même. Depuis longtemps,
ce que je retiens avant de donner la parole à l'auditeur, ce que je retiens, c'est qu'il c'est un foutage de gueule par rapport à Nice, qui lui a offert quand même la possibilité
sûr,
de se remettre.
Bien sûr.
Parce que ça, personne n'en parle. On n'en a pas parlé, là. Et moi, j'avais beaucoup d'affection pour lui, même si il a fait des choses dans tous les clubs, ça s'est mal passé à la fin et tout ça. Mais faire ce qu'il a fait à l'OGC Nice, alors que Nice l'a relancé, l'a remis un petit peu dans le droit chemin. Il a une bonne image en France. Il avait une bonne image. Mais aujourd'hui, se foutre de la gueule de l'OGC Nice, comme il s'est foutu de la gueule de l'OGC Nice cet été, en revenant avec 15 kilos de trop, le plus gros salaire du club, l'investissement donc ils y ont mis, ils sont attachés à lui en disant ben non, tu vas pas partir gratuitement. Il en a fait qu'à sa tête, avec un entraîneur avec qui il avait partagé un vestiaire, qui a essayé de faire en sorte. Il y a eu un reportage dernièrement sur.
Oui, il dira,
voilà, on a vu comment il réagissait, ne serait-ce qu'avec un mec comme Patvira qui connaît le respect, il s'en fout lui.
Oui, donc, ça, il s'en
donc,
carme.
Écoute, s'il respecte autant l'Olympique de Marseille et les supporters, tu vas voir si les supporters ils vont l'aimer même s'il planque 5 buts.
On va demander à Damien. Salut Damien.
Salut à tous.
Salut Damien.
Damien. Damien, t'es supporter marseillais, est-ce que toi tu étais satisfait de cette arrivée ou bien tu doutes?
Satisfait dans le sens où c'est un pari à prendre. Pour moi, c'est un pari qui n'a pas forcément de risque, dans le sens où si Mario Balotelli, dans les 6 prochains mois, il nous permet de concrétiser les différentes situations et occasions qu'on a devant le but, qu'on n'arrive pas à mettre avec Valerjamin ou Mitroglou, qui, on le rappelle, ont marqué 3 buts chacun depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Si on compare à Morgan Sanson, qui est un milieu de terrain et pas un attaquant, il en a marqué 4 depuis le début de la saison, en Ligue 1. Donc déjà d'une, sur ce point-là, ça ne pourra pas être pire que Valère-Germain Mitroglou et Kostas Mitroglou, pardon. Dans le sens également aussi où c'est pas forcément un risque à prendre parce que c'est sur un contrat de 6 mois. Après, derrière, il y a une année en option supplémentaire. Il me semble bien. Donc c'est un pari à prendre.
Non, il y a zéro option, il y a rien.
Ouais, c'est juste 6 mois.
Un contrat sec. Hein.
Ouais.
Donc c'est pas forcément par rapport à Valère-Germain Kostas Mitroglou, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas un risque à prendre. Après, sur la politique de l'Olympique de Marseille, le fait qu'il soit fait promener par Mino Raiola et Balotelli depuis des mois et des mois, si le Camario Balotelli ne marche pas, ça pourrait retomber sur les têtes de Rudy Garcia, Denis Bézaréta et Jacques Henriot.
Ouais, mais ça.
Après, tu vois la conséquence négative sur l'ensemble du club.
Non, mais de toute façon, la conséquence, elle est négative.
Ça marche pas. Il se barre en juin et basta.
Non, mais
de toute façon, même si jamais il devait mettre les 10 buts.
Ouais.
Et permettre à l'OM d'un redressement magnifique en championnat à 4e, 3e, encore ouais. mieux. Mais ça va être une telle galère de négocier avec lui et avec Raiola que l'OM a tout intérêt à se dire « Oh mec, pendant 6 mois, t'as été énorme, grâce à toi on s'est redressé, s'il te plaît, barre-toi. » Au contraire, pour l'OM, ils ont tout à gagner dans l'histoire. C'est que si jamais il leur permet vraiment le redressement, surtout, le gardez pas.
Ouais.
Parce que d'une, ça va vous coûter trop cher. Deux, le gérer lui et Raiola, même pas à long terme, à moyen terme, c'est une plaie. Donc servez-vous-en. Lui, c'est ça qui est bien dans cette affaire, c'est que lui, il a besoin de l'OM et l'OM a besoin de lui. Si, comme je disais tout à l'heure, ce type est assez tordu pour être fort sur 6 mois, il est capable. Il est capable ponctuellement, ce mec, de mettre au service d'une équipe ses qualités parce que c'est des qualités, on sait qu'il en a. Mais il faut surtout pas s'engager avec lui après. Ouais. À la fin, tu dis merci, au revoir.
Après,
surtout, allez, pour conclure.
Je sais pas si
Donc c'est bien fait de la part de l'OM. C'est bien foutu ce contrat.
T'as pas tort quand tu dis ouais, l'OM a besoin de lui et
oui, oui, c'est un donnant. C'est très bien.
Mais ça montre une chose. Et les supporters de l'OM, les amoureux de l'Olympique de Marseille, ils sont pas dupes. Et nous,
gestion la petite semaine.
Non mais franchement, écoute, là ils montrent leur incompétence dans le recrutement.
Non, je sais pas combien de temps ça fait pour dire la petite semaine.
Comment ils ont travaillé pendant des mois et même presque des années pour en arriver à rater Balotelli il y a 8 mois et à se dire bon bah aujourd'hui il fait une première partie de merde
parce qu'il est dans la merde dans son club à Nice et que l'OM est dans la merde.
On n'a aucune autre solution, donc on est obligé de prendre Balotelli à 6 mois, on va le payer 6 mois et puis ouais, en effet, bah c'est un pari. Mais écoute,
les deux,
tu payes des gens pour aller voir des matchs dans le recrutement des directeurs sportifs très chers pour te pondre Balotelli.
En fait, les dirigeants de l'OM et Balotelli lui-même se sont retrouvés coincés aux chiottes et ils ont dit bon bah, les gars, si on sortait tous les deux des chiottes,
qui sont l'Olympique de Marseille, voilà. Comme tu dis, de cette mauvaise année, et après il faut faire du tri là-dedans.
Ah bah, oui,
pas
ça,
que
oui.
Sur les joueurs.
Damien, merci en tout cas et à très bientôt dans l'after. Et puis je remercie JC qui nous envoie la définition du Larousse concernant quinzaine, quantité de 15 ou d'environ 15.
Non mais ça c'est le sens 2. Le sens 1, c'est que quand on dit douzaine ou quinzaine, c'est 15 éléments d'une même composante.
D'accord.
Ouais. Dans quelques instants, nous sommes de retour pour le reste de l'actu du jour. Je rappelle les qualifiés en coupe ce soir. Toulouse, Guingamp, Lyon, La Duchère.
Quand tu me dis, tu me l'envoies sous huitaine.
Beaujolais, Metz.
C'est avant 8 jours sous huitaine.
Sous huitaine, oui. Donc c'est pas précis. C'est pas dans 8 jours. C'est dans les 8 jours. Eh oui, Daniel. Allez, à tout de suite dans l'after.
Tu m'emmerdes avec tes calculs.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jérôme Bretel également, jusqu'à minuit, c'est l'after tout le reste de la
semaine. Encore une dizaine de minutes.
Exactement. Mmh. Ouais. Alors, évidemment, il faut qu'on évoque la disparition ce matin d'Emiliano Sala, le célèbre chouchou pas bon de l'after qu'on suivait de près dans l'after, et c'est évidemment une tragédie. Il reprenait l'avion hier soir, un tout petit avion de Nantes vers Cardiff, et l'avion donc a disparu des radars dans la Manche, près des îles anglo-normandes. Aujourd'hui, un bateau. La police anglaise a fait des recherches toute la journée sans résultat. Ce soir, les recherches ont été suspendues et la police anglaise explique qu'elle est très très pessimiste. De nombreux supporters nantais se sont réunis Place Royale à Nantes tout à l'heure en fin de journée. Évidemment, le monde du foot est totalement sous le sous le choc, c'est quand même un truc terrible. Bon, ben aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part que c'est une véritable tragédie. Et pour l'instant, il est disparu, hein, Emiliano Sala, puisqu'on l'a retrouvé.
Bon, comme la police, je serais très très pessimiste et... Et j'avoue ne pas y croire. Moi, j'ai toujours aimé ce mec-là. Dès les premières fois où je l'ai vu, et pourtant, c'est vrai que c'était drôle parfois de le voir rater des choses folles devant le but, mais ça m'enlevait pas de l'esprit que ce gars-là avait quelque chose. Et moi, en fait, si je l'aimais, et généralement dans le foot, en dehors d'aimer les mecs classiques qui sont des vedettes et des grands talents, qui les mecs dont on parle le plus dans notre métier, j'aime les mecs qui sont vachement généreux. Et lui, c'était l'incarnation de la générosité sur le terrain. Et surtout, il dégageait énormément de passion pour ce qu'il fait. Et ça aussi, c'est super important. Je trouve que de plus en plus dans notre foot, on n'a pas de gens qui rient ou qui expriment leur passion pour ce qu'ils font sur le terrain. C'est un jeu, Jérôme, tu joues depuis que t'es môme, t'as eu le plaisir d'être professionnel, t'as connu la joie que ça doit être de faire ce métier. Moi, je le sais pas. Moi, j'ai la joie de faire le métier que je fais, c'est déjà bien. Mais ça procure en plus une sorte de rapport au public. Vous êtes tellement devant les caméras que montrer qu'on est heureux, je trouve que ces derniers temps, c'était presque la mode de ne pas trop le montrer. Qu'on était heureux d'être un petit peu dans l'entre-soi et tout. Lui, il faisait partie de ces mecs parce qu'il est pas unique. Il y en a d'autres évidemment, mais lui, il donnait. Il n'était pas atteint quand il ratait. À l'époque, on disait que c'était qu'il n'était pas bon, qu'il ratait des grosses occasions et tout ça. On n'avait pas l'impression qu'il était extrêmement affecté par ça. Il revenait, il retournait au combat. Il avait toujours le sourire. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal de ces vertus-là chez les joueurs argentins qui sont des vrais passionnés de foot. Et ce mec-là, même. Là, j'ai sa photo sous les yeux. Bon, on peut pas dire que c'était un playboy, mais sa générosité, le sourire qu'il avait sur le terrain, et quand il marquait, il en faisait des tonnes, tu vois, vraiment, quoi. Chaque fois qu'il marquait, bah, ça le rendait beau, quoi. Parce que les gens extrêmement généreux comme lui, ce sont des belles personnes, et ça les embellit, en fait, dans ce qu'ils sont physiquement. Et voilà, j'aimais beaucoup ce mec-là. Trouvait drôle ce qu'on avait développé autour de lui, du chouchou pas bon, parce que c'est vrai que quand t'es supporter, d'ailleurs, les supporters des clubs où il est passé, et les mecs qu'il a côtoyés ont été unanimes, vraiment, on sent à quel point, t'es attaché à ce genre de mecs-là. C'est des types qui sont formidables dans le foot, vraiment. Et il est plus là.
Horrible.
Alors d'autres infos les gars, puisque il y en a d'autres ce soir à développer. Le PSG qui ce soir se voit infliger une amende de 100 000 euros, amende ferme concernant l'affaire dossier, vous savez, la saisine du Conseil national de l'éthique concernant les fiches avec des informations à caractère ethnique. 100 000 euros d'amende pour le PSG, 10 000 euros pour Bertrand Roseau, directeur du centre de formation au moment des faits, et 5 000 euros pour Westerlop et Pierre Reynaud en tant que responsable des cellules de recrutement. Alors certains estiment que le PSG s'en sort bien, d'autres disent que non. Donc bon, je sais pas trop quoi.
Bah moi non plus, je sais pas. Il y a eu enquête, il y a eu jugement, il paye l'amende et puis basta. Mais en ce qui concerne le PSG, puisque j'avais dit que j'avais envie d'en toucher un mot, il parle jamais Neymar. Donc là, on a entendu une interview dans le CFC dimanche. Je trouve que c'est important de l'écouter. Je sais pas si tu l'as entendu. Jérôme, mais
il dit par exemple, là il y a quelques extraits qui s'affichent sur RMC Sport News, il dit l'adaptation à la Ligue 1 a été facile car ça ressemble à la Liga, dit-il.
Non mais moi ça je m'en fous, c'est bon, pas ça que j'ai retenu. Alors, c'est quoi, son le rapport à Tourelle m'a intéressé parce que je trouve que ça traduit.
Voilà, c'est la regarde.
Voilà.
J'ai développé une grande affection envers lui. Et quand tu as cette grande affection envers ton entraîneur, tu donnes ta vie sur le terrain. Alors pour lui, je ferai mon mieux pour gagner.
Voilà. C'est une tendance actuelle qui concerne pas tous les joueurs, hein, parce que tous les managers ne sont pas comme ça.
C'est la kainothérapie qui fonctionne.
Exactement. Il y a aujourd'hui une nouvelle tendance dans le management qui est ce rapport d'affection. Alors c'est pas nouveau, hein, ça a existé, bien sûr. Mais t'as des joueurs qui fonctionnent à ça, qui aiment ça.
Il y en a beaucoup.
Et Neymar, clairement, on a le sentiment qu'il avait besoin de ça pour se sentir bien à Paris et pour s'épanouir. Et là. Pourquoi je dis que l'interview est intéressante? Parce que d'abord, c'est le joueur star du club, et que si le club veut progresser, c'est forcément avec un Neymar bon. Et le fait que lui dise qu'il se sent bien et qu'avec Tuchel ça se passe bien, je trouve que c'est quelque chose de positif, et ce positif est ressorti de cette interview. On se doutait parce qu'on voyait ce qui se passait comme ça, mais le fait qu'il le dise, je sais pas, je trouve que c'est à noter. En tout cas,
en fait, ça a toujours existé, et dans
ce genre de management, tu veux dire.
Ouais, ça a toujours existé, et surtout, j'ai envie de te dire, alors après, attention, il y a Neymar est un joueur hors norme, un des meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. Mais ça a toujours existé dans les joueurs, je vais te dire, qui se sentent importants et qui sont importants pour leurs équipes. À tous les niveaux, hein. Bien, tu prends des joueurs en Ligue 1, les joueurs qui sont importants, en général, ils aiment avoir une relation un petit peu particulière avec l'entraîneur, être brossé dans le sens du poil. Alors je te le dis en connaissance de cause, parce que moi c'était mon cas aussi, et que voilà, t'as besoin d'amour entre guillemets, et t'as besoin d'avoir cette affection envers ton entraîneur et que ça soit réciproque. Et quand elle n'existe pas, c'est vrai que c'est un petit peu conflictuel, et on l'a ressenti. Cette osmose, il l'a jamais eu avec Unai Emery. Jamais. Il n'y a jamais eu ce genre de scène de Neymar. Et même, je vais te dire, ce genre de scène avec son entraîneur, mais ça découle avec ses coéquipiers aussi. Aujourd'hui, tu le sens complètement relâché. Il a envie de donner du plaisir aux gens.
Bilal nous dit, regardez Klopp avec Shaqiri,
Firmino.
Après, c'est
Klopp est très bon de ce côté-là. Moi, pour parler à beaucoup de joueurs de Liverpool, quand j'ai l'occasion de les commenter, et je l'ai souvent fait, Klopp, il a cette relation-là.
Jérôme, je pense que
j'ai dit des joueurs importants qui font gagner.
Jérôme, si t'as raison de dire que c'est effectivement des choses. T'as raison de dire que ça, en gros, ça a beaucoup existé, machin. Mais attention, je pense que là, c'est réellement une tendance dans le foot moderne. Il y a de plus en plus de joueurs, pas uniquement les stars, qui le demandent et qui ont ce rapport-là. Vraiment avec l'entraîneur. Zidane au Real a beaucoup marché là-dessus. Klopp à Liverpool.
Alors que les dirigeants, eux, ils disent ouais, nous, il nous faut les mecs à poigne. Il faut.
Non, mais c'est pour ça que le débat est intéressant. C'est pour ça que la question est intéressante.
Attention. Non, mais là, l'un ne va pas sans l'autre. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu réagis comme ça avec certains joueurs que.
Mais
tu
les joueurs te disent oui, nous, on veut un entraîneur juste. C'est-à-dire, on s'en fout à la limite.
Mais comment? Mais arrêtez avec la justesse dans un vestiaire. C'est quoi l'entraîneur juste? Non, mais l'entraîneur juste. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Au PSG, quel est le plus important? C'est d'avoir Neymar et Mbappé dans de bonnes conditions, et surtout Neymar dans de très bonnes conditions, ou d'avoir Marquinhos, Thiago Silva, Bernat. Attention, je respecte ces joueurs-là ou ces positions dans le jeu. Mais attends, ou Verratti dans le bon sens. Non, je suis désolé. T'as des joueurs clés, et ces joueurs-là doivent être bien pour te créer une ambiance dans le collectif qui va être top, et surtout que les joueurs qui jouent à côté de ces joueurs-là sentent que, d'un moment, qui c'est qui te fait gagner les matchs? Le plus important, c'est eux. C'est eux qui vont te faire gagner les matchs. Après, attention, le collectif, c'est une force qui est impressionnante dans une équipe, et sans un gros collectif, le PSG peut pas y arriver. Et ce rôle de management, il existe dans tous les grands clubs. Daniel parlait du Real avec Zidane.
Juste une dernière chose, vous avez vu cette image de Ronaldo aujourd'hui avec sa compagne qui fend la foule? On croit qu'il monte les marches au Festival de Cannes, en fait non. Il est allé au Palais de Justice à Madrid, lunettes de soleil, t'avais l'impression qu'il était à Cannes, le gars. Non, en fait il est allé, voilà, et on lui a dit monsieur Ronaldo, 2 ans de prison, vous ne les purgerez pas, lourde amende. Donc en gros, l'histoire de fraude fiscale, ça lui va lui coûter au final 3 millions d'euros. Puisqu'en fait, il a déjà remboursé ce qu'il devait, 18 millions et 3 millions d'amende, quoi. En gros, pour Ronaldo, qui est ressorti sous les flashs, ainsi que les autographes, devant le tribunal à
Madrid. Je t'avoue que là, je m'en fous complètement, parce que je viens de voir le message, les derniers mots de Salah qu'il a envoyé à sa bande de potes avant le décollage de l'avion, ou pendant, je sais pas bien si ça avait déjà décollé. Mais c'est costaud quand même, hein. Quelle journée.
Demain soir, l'after sera là, dès la fin de PSG Strasbourg. Demain, je vous laisse avec Louis Amar. Faites-lui un bon accueil demain soir. Ce sera ça.
Louis Amar.
T'es où, toi?
Je repose. Cache
chautier. Je me repose.
Ouais, c'est ça.
Je reviens après.
Que je te vois pas sur les écrans.
Louis Amar pour une première.
Louis Amar, je pense qu'on peut se le faire.
Tu prends la casserole, tu prends les petits oignons.
Non, oui. Mais bon courage. Louis, dors bien.
Allez.
Parce qu'on t'attend demain.
Sera là demain.
Et écoutez, parce que vous allez vous régaler.
Bonne nuit à tous.
RMC Football Show. L'After Foot.